Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on s'intéresse ce matin au monde immense des nanomatériaux. Qu'est-ce que vous faites là, Roger Langlais ? Qu'est-ce que vous faites sur ce sujet des nanotoxiques, des nanotechnologies ? La dernière fois qu'on s'était rencontrés, vous étiez dans les questions de santé, santé et environnement. C'était menace sur nos neurones, je me souviens. Et vous aviez, avec Marie Grossman, fait une enquête tout à fait approfondie sur toutes les façons dont notre environnement peut contribuer à des maladies neurodégénératives, même si ça apparaît rarement comme ça dans les médias ou dans les rapports médicaux, mais de fait, en fouillant et en grattant, on arrive à trouver des preuves assez frappantes. Et vous revoilà, toujours chez Actes Sud, qui publiait une enquête nanotoxique. Et de fait, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez beaucoup travaillé sur le lobbying, et en particulier les lobbyings dans le milieu de la santé. Et vous revoilà en train de faire une enquête sur un sujet dont, alors, on a eu l'occasion d'en parler à Terre à Terre, 2-3 fois. Mais de fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un sujet qui a un peu du mal à émerger.
Alors, en fait, c'est un sujet que j'ai découvert à l'occasion de l'écriture avec Marie sur Menace sur nos neurones. On travaillait donc sur les polluants qui sont à l'origine des maladies neurodégénératives ou qui jouent un rôle en tout cas décisif. Et c'est à cette occasion que j'ai croisé les nanotechnologies, puisqu'on s'était aperçu dans un certain nombre d'études déjà, même dès les années 80-90, donc des études montrant que les particules ultra-fines de dimension nanométrique, donc des nanoparticules, un milliardième de mètre, c'est autant dire c'est invisible à l'œil nu, c'est de la dimension des molécules, en fait, on va dire, par exemple du virus de la grippe, hein, on est dans cet ordre-là. Et donc, des études montrant que les nanoparticules pouvaient passer la barrière hémato-encéphalique, la barrière qui protège le cerveau, et qui allait jouer avec nos neurones, et pouvait contribuer, donc, de façon documentée scientifiquement, hein, donc, qui contribuait à déclencher des maladies neurodégénératives. Et donc, il y a 3-4 ans, je ne connaissais pas les nanos, pas plus que la plupart des Français. Voilà. Donc, je me suis penché sur le sujet pour en savoir plus, après le livre « Menace sur nos neurones ». Alors, tout d'abord, j'ai découvert un univers totalement fascinant. C'est la première approche. Avant de se poser des questions de santé, je ne me pose pas systématiquement a priori des questions de santé sur tout ce que je vis, tout ce que je découvre. Les nanos, donc un univers fascinant, puisque c'est, on va dire, la nouvelle ingénierie chimique et physique qui permet d'inventer des molécules inédites, de bidouiller les atomes au niveau électronique, leurs agencements, etc., de changer les champs électromagnétiques, de doter les atomes et les molécules de propriétés complètement inédites pour obtenir des propriétés ensuite physiques ou chimiques extraordinaires. Donc un univers totalement fascinant, avec en plus un discours, une histoire qui s'est constituée depuis Eric Drexler en 1986, un ingénieur américain qui a écrit « Engin de création », et je me suis rué sur ce livre, qui a vendu un énorme rêve aux Américains, c'est-à-dire sur les possibilités qu'allait donner à l'humanité l'invention de ces nouvelles molécules grâce aux technologies les plus fines, travaillant sur l'infiniment petit.
Il a été présenté comme un précurseur, quelqu'un qui avait eu une espèce de vision avant tout le monde.
Alors c'est un précurseur par rapport à l'opinion publique, on va dire. Mais les industriels ne l'avaient pas attendu pour fabriquer des nanos, hein, des molécules aux propriétés nouvelles. En fait, dès les années 70, on a non seulement l'invention de nanoparticules, donc intentionnellement, parce qu'on verra qu'il y en a des naturels, et puis donc mettait déjà sur le marché des produits, des articles pouvant contenir des nanoparticules. En particulier, c'était lié aux techniques d'abrasion de plus en plus fines, de broyage de plus en plus fin, etc. Et puis aussi à des procédés chimiques permettant de modifier un peu, justement, les atomes et leurs agencements.
Bon. Oui, mais Roger Langlais, il faisait de la nanotechnologie sans le savoir, comme M. Jourdain ou pourquoi est-ce que vous avez commencé par nous parler d'Eric Drexler?
Il faisait de la nanotechnologie sans le savoir. Et le terme a été forgé non pas par Drexler, d'ailleurs, qui croyait l'avoir inventé, d'après ce qu'il dit, mais par un japonais professeur de technologie, justement, qui a forgé le terme nanotechnologie. pour désigner ces particules conçues intentionnellement et qui avaient au moins une dimension ou deux d'ordre nanométrique. Donc on va dire que les procédés industriels pour en fabriquer datent des années 70. Drexler arrive en 86, mais là, pour faire tout à fait autre chose, pour faire rêver, on va dire, l'humanité, et ça a marché, au moins pour ceux qui l'ont lu, et aux États-Unis c'est un best-seller, pour faire rêver la population et les gouvernements, aussi c'est important, sur les possibilités inouïes qu'allaient offrir ces nanotechnologies. Drexler va jusqu'à dire que le vieillissement lui-même disparaîtra, ce sera un mauvais souvenir de l'humanité. Les maladies, n'en parlons pas, le cancer et autres, et tout ça sera solutionné par les nanos qu'on pourra introduire dans le corps et qui seront là à l'intérieur de nos vaisseaux, etc., pour réparer en permanence les petites lésions ou les grosses lésions, pour modifier les mutations génétiques s'il y en a, etc. Bon.
Et encore, vous ne parlez là que d'une partie du rêve.
C'est une partie du rêve, puisque pour les autres applications, Drexler rêve aussi, donc éveillé, il nous entraîne dans des songes sur la durée de vie des articles, ça deviendra inusable, ça aura une souplesse extraordinaire. Et d'ailleurs, ces deux rêves, vous voyez, aujourd'hui, on l'a dans des pneus de chez Michelin, par exemple, des pneus qui deviennent inusables, entre guillemets, beaucoup plus souples, beaucoup plus adhérents, etc. Donc cette adhérence, cette durée, cette souplesse, cette élasticité extrême et cette résistance inouïe aussi, hein, on peut avoir donc aujourd'hui des matériaux 100 fois plus résistants que l'acier, 10 fois plus légers, et donc des perspectives aussi bien en métallurgie qu'en plasturgie, dans les cosmétiques aussi, ou dans les textiles, qui font que, en quelque sorte, l'usure, le vieillissement et les pathologies, tout ça devient un vieux cauchemar de l'humanité. Et nous accéderions enfin, grâce aux nanos, à la finalité du vivant lui-même. Drexler va jusqu'à là, hein, dans Engin de création. Il nous dit, on va découvrir tous que le vivant, l'histoire du vivant, toute l'épopée de la nature, c'était pour nous mener jusqu'ici, à l'homme inventant des nanotechnologies, c'est-à-dire recréant le monde au niveau même des atomes, hein, et prenant enfin la place que Dieu lui a confiée, devenant donc créateur lui-même à son tour de la vie, de l'intelligence et de la matière tout court.
Roger Langlais, vous le dites, Eric Drexler a vendu ce rêve aux Américains. Il y avait de quoi, effectivement. J'espère qu'il leur a vendu cher, parce que c'est quand même un sacré rêve, même si ça ne ferait pas rêver tout le monde de se retrouver à la place assignée par Dieu depuis le début des temps.
C'est intéressant déjà du point de vue de ce qu'on appelle la téléologie, enfin, c'est-à-dire c'est d'attribuer une finalité supérieure, hein, à la nature, au vivant. On voit à quel point ça paraît grotesque, nous, notre point de vue. Et donc c'est à la fois fondé sur une croyance, on va dire de type religieux, et en même temps c'est le retour d'un scientisme. C'est-à-dire, on va dire que depuis le nucléaire, on n'avait plus eu de tels rêves scientistes. Pas oublier que le nucléaire, on nous l'a vendu un peu de la même manière, hein, c'est-à-dire que ça allait être un miracle économique, et on allait enfin ne plus polluer, hein, parce qu'il y a eu on a vendu cet argument avec le nucléaire, hein, et on le vend avec les nanotechnologies, ça va être le moyen de mettre en place des articles qu'il n'y aura plus besoin de reproduire, etc. Enfin bon, une économie d'énergie aussi énorme, etc.
Et puis l'économie de pollution aussi.
L'économie de pollution, et on nous le vend encore d'ailleurs comme tel, hein, et même s'il y a les problèmes de stockage des produits radioactifs, etc. Et les applications médicales, pas oublier qu'on nous a vendu ça avec le nucléaire aussi au départ. Pendant des décennies, on a eu en France et ailleurs tout un tas de produits, de médicaments, de produits d'hygiène, des savons, des shampoings, etc., au radium, sans jamais d'ailleurs d'études épidémiologiques sur l'impact de ces produits. Et on peut penser que beaucoup de cancers ont été induits justement par cette ruée sur le radium, comme une panacée, on nous l'a vendu comme une panacée universelle aussi. Et on voit comment on est passé du rêve à tout autre chose, quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un cauchemar. Et avec les nanotechnologies, hélas, les études toxicologiques montrent qu'on est déjà lancé dans le cauchemar, si on veut bien les regarder en face.
On va repousser encore un moment ce cauchemar. Je vous propose qu'on revienne à vos découvertes, puisque vous avez mené, je le disais, une enquête minutieuse. Et on va escamoter cette figure si brillante d'Eric Drexler et regarder ce qu'il y avait derrière. Vous avez commencé à le dire, Roger Langlais, les industriels, les scientifiques n'avaient pas attendu cet ingénieur, ni les années 80, ni même 1986. C'est quand même une curieuse année quand on y pense, hein, c'est Tchernobyl. Ils n'avaient pas attendu cette année-là pour fabriquer énormément de produits dans lesquels se trouvaient ces nanomatériaux et pour les mettre sur le marché sans en piper mot, finalement. Mais en revanche, ils avaient, en coulisses, dites-vous, commencé à structurer et organiser une sorte de vaste mouvement, et j'aimerais que vous nous en parliez maintenant.
C'est ce qui m'a intéressé très vite dans cette histoire des nanotechnologies, c'est de regarder déjà l'instrumentalisation d'Eric Drexler et de son épouse. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il a sorti ce fameux best-seller qui a vendu les nanos aux Américains, donc ils avaient créé un institut, l'Institut Foresight, l'Institut de la prévoyance, en tout cas, qui vendait aussi ce rêve et qui était censé donc organiser le débat national à travers des conférences partout, des articles dans la presse, etc., et dans le monde, pour, soi-disant, encadrer les nanos, c'est-à-dire qu'il n'y a que des bonnes applications, qu'on maîtrise bien les dangers, etc., parce que Drexler et Christine Peterson, sa femme, étaient aussi des gens qui disaient « Attention, ça ne va pas sans danger, mais on va pouvoir les encadrer au cas par cas, etc. » Et puis, finalement, j'ai creusé, voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cet institut, parce qu'il distribuait quand même de l'argent. Et donc, je me disais, l'argent, ça m'étonnerait qu'il vienne de leur poche. Donc, j'ai l'habitude de me poser cette question. Et derrière des associations ou des think tanks qui se déclarent indépendants, je regarde toujours quels sont les financeurs.
Et à but non lucratif.
À but non lucratif, officiellement. Et en général, c'est le cas des think tanks et des associations de ce genre, ou des fondations. Et là, stupeur, j'ai beau même en avoir l'habitude, là c'était absolument énorme, c'est-à-dire qu'on voyait toutes les entreprises du CAC 40, et en particulier toutes les multinationales américaines, en fait, quels que soient les secteurs industriels, étaient des financeurs de l'Institut Foresight. Même les sociétés de services, hein, Apple, Google, et tous les grands de la métallurgie.
Mitsubishi, Ford, Microsoft.
Voilà, toute la chimie était là aussi. Il serait presque plus difficile de dire ce qui n'y était pas, tellement c'était énorme. Et puis ensuite, parmi les financeurs de l'Institut Foresight, on va avoir même des entreprises, des multinationales françaises, par exemple, hein, comme L'Oréal, avec le gros producteur de cosmétiques, comme on le sait. Et en fait, tous les industriels donc, s'étaient déjà lancés dans la course aux nanos, et dans une autre course qui consistait à récupérer l'argent public, puisque ce lobby, on va dire, vraiment industriel et financier, parce que les banques étaient aussi sur le coup, donc dans les années 90, s'est lancé à l'assaut des gouvernements et des institutions internationales pour débloquer énormément d'argent public en soutien à la recherche et au développement des nanos. Et cet argent a été et continue à aller essentiellement donc, vers les multinationales ou les groupes de recherche des multinationales. Et l'argument majeur, c'était de dire, attention, si vous ne financez pas, on va se faire avoir par les concurrents étrangers, et les États-Unis vont être réduits à une toute petite puissance, et notamment au niveau militaire, puisque la course militaire, on va aussi en parler, c'est énorme. Hein. Sur le terrain des nanos, il y a une révolution de l'armement, on va dire. Donc ils ont vendu cet argument en disant que les États-Unis allaient se faire avoir par les autres pays qui, eux, étaient lancés dans la course. Cet argument a prévalu d'ailleurs dans toutes les nations, sur tous les continents. Et ce qui est assez ironique, on va dire, c'est qu'en fait, ce sont les mêmes multinationales qui, sur les différents continents et les différents pays, reçoivent cet argent public. Hein, alors que c'est au nom de la compétition internationale que cet argent est débloqué.
On ne parle pas de petites sommes, là.
On parle de très grosses sommes. Hein. En France, aujourd'hui, par exemple, on en est à plus d'un milliard d'aides publiques chaque année. À l'échelle mondiale, on peut estimer que là, au cours des 20 dernières années, c'est mes calculs à peu près, 100 milliards déjà de dollars ont été débloqués pour les multinationales et leurs chercheurs, hein, qui, eux, sont dans la course au brevet. Tout le monde est dans une course à l'argent. Là. Il y a un effet d'aubaine économique qui a été créé par ces grands lobbies, au niveau des instances européennes, au niveau des autorités américaines, mais également en Chine, au Japon, et en Inde, partout. Il y a énormément d'argent à récupérer. Et à une époque où on nous dit qu'il faut réduire les dépenses publiques, il est quand même assez étonnant que sur cette production de nanomatériaux, il y a une telle aide qui aille là aux plus puissants en fait, de la planète, et comme on le verra, pour des applications qui sont souvent totalement dérisoires.
Aux plus puissants, mais aussi aux innombrables petits qui se créent et qui montent en puissance. Et vous dites dans votre livre, Roger Langlais, que finalement, c'est même devenu une sorte de jeu linguistique. Il suffit de parler de nano dans un projet de recherche pour immédiatement voir arriver la manne financière publique.
Oui, ça fait rire, même dans les milieux de la recherche. Hein, c'est à qui trouvera l'occasion de glisser dans la présentation des projets le mot de nanotechnologie, et tout simplement pour obtenir des budgets. Il y a aujourd'hui vraiment un effet d'aubaine économique mondiale qui a été créé donc, autour de ce marché des nanotechnologies. Et on a en fait la triade habituelle qu'on avait dans Menaçant nos neurones déjà sur d'autres produits toxiques, c'est-à-dire une course lucrative uniquement sur ce qui peut ramener de l'argent, y compris dans le domaine de la santé d'ailleurs éventuellement, parce que là le monde des firmes pharmaceutiques est là aussi depuis le départ. Et aujourd'hui, on a au moins une bonne centaine d'applications dans les médicaments hein, de nano. Et tout ça se fait donc non seulement à l'insu des consommateurs, mais finalement, quand on creuse, on s'aperçoit que même les autorités, la plupart du temps, ne sont pas au courant des applications. C'est extraordinaire. On est revenu à la préhistoire de la prévention, on va dire. Bien en deçà du programme REACH qui avait été mis en place en 2006, qui obligeait à tester les substances avant de les mettre sur le marché. Là, les industriels ont réussi, en plus, ce coup de force, que je ne connaissais pas et que j'imaginais même pas, je ne pensais même pas que c'était possible, de nous mettre devant le fait accompli. Et on a aujourd'hui à peu près 2000 applications différentes, tous secteurs confondus. On ne sait plus où il y a des nanos. Enfin, on ne sait pas, on ne nous l'a pas dit. Les autorités elles-mêmes disent qu'elles ne savent pas. Et on en est seulement en France, là, au premier stade des déclarations obligatoires. Et très souvent, les industriels eux-mêmes disent « on ne sait pas s'il y en a parce que ceux qui nous apportent les matières premières ne nous le disent pas toujours, etc. »
On va essayer de ne pas aller trop vite, Roger Langlais. Je vous sens anxieux de partager avec nous vos découvertes. Mais je vous rappelle qu'on était parti de ce petit institut sans but lucratif qui s'appelle le Foresight Institute, un couple, monsieur Eric Drexler et madame Christine Peterson. Et nous voilà dans le monde entier avec une collection de multinationales qui donne le tournis. Vous y avez ajouté progressivement un certain nombre de secteurs. On a vu passer la plasturgie, la métallurgie, la construction. Et puis sont arrivés la pharmacie, l'armement, et puis sont arrivés différents pays. Donc, bouclons peut-être cette première boucle, ce premier personnage, Eric Drexler, parce que de toute façon, il sort de la scène. Alors, on va regarder, on va le regarder sortir, et puis après, on va revenir.
D'accord. Alors, il sort effectivement, il ne sort pas tout seul, en fait, on le fait sortir, hein, puisque Eric Drexler est inquiet devant les applications totalement incontrôlées des nanotechnologies, selon des méthodes hyper polluantes, contrairement à celles qu'il imaginait, qui consistaient à prendre quelques atomes séparément, à les relier, à voir comment ça fonctionnait, etc. En fait, des systèmes industriels de très grosse production, non seulement très polluantes, mais sans aucun recul sur leurs effets toxiques, alors que les études dont on disposait déjà sur les particules ultra-fines aurait dû imposer vraiment les plus grosses précautions.
Parce qu'en fait, il y a une similitude entre les particules ultra fines et ces nanoparticules.
Il y a une très grande similitude, puisque c'est ce qui joue à la base, c'est essentiellement l'effet taille. C'est-à-dire qu'on savait que les particules, plus elles sont petites, en fait, plus elles ont une surface de réactivité avec l'organisme qui est grande, et plus leur pouvoir de pénétration, surtout, et de passer à travers les barrières organiques, est grande aussi.
Mais tout de même, Roger Langlais, est-ce que vous êtes en train de nous dire que selon la méthode employée, on aurait pu avoir des nanomatériaux moins polluants, moins dangereux? Puisque là, vous nous parlez de la méthode Drexler qui consiste à assembler de manière très méticuleuse des atomes un par un en faisant très attention. Alors, on voit bien ce que cette méthode a d'avantageux, entre guillemets, par rapport au fait de détruire de la matière pour en tirer quelques atomes qu'on va garder et en jeter quelques milliards d'autres n'importe où. Mais est-ce que véritablement, vous pensez qu'il y avait ou qu'il y aurait une bonne manière de faire de la nanotechnologie ?
Alors non, c'est le point de vue d'Éric Drexler et d'un certain nombre d'ingénieurs. On a en France Christian Joachim, enfin un certain nombre d'ingénieurs de pointe qui partagent cette religion voilà, du bottom-up, c'est-à-dire vraiment de l'assemblage atome par atome. C'est leur point de vue. Le mien, non. On ne peut pas mettre en place une révolution atomique comme ça, matérielle de cette dimension, sans conséquences absolument énormes sur le plan éthique, humain, économique, parce que là aussi, c'est évidemment les pays riches, hein, les grandes firmes qui vont en profiter. Et puis, en termes de pollution, quelque chose de totalement immaîtrisable, puisque pour être resté encore global, les nanoparticules sont changeantes, c'est-à-dire qu'elles ont un profil toxicologique qui évolue en fonction des autres molécules qu'elles vont rencontrer, en fonction du terrain, de l'environnement. Bref, il leur arrive beaucoup de choses et les toxicologues s'arrachent les cheveux en réalité. Et ça depuis le départ, puisque j'ai retrouvé même des rapports qui sont déjà anciens, où les toxicologues disent on a un vrai problème de gestion des risques avec les nanos, c'est que leur toxicité bouge avec le temps hein, et en fonction des associations chimiques dans lesquelles elles vont entrer. Donc pour un même type de nano, on ne peut même pas dresser un profil qui soit vraiment fiable en termes de gestion des risques. Ça bouge et donc c'est insensé de toute façon. Et il faut envisager totalement une autre manière d'avancer. Simplement, Eric Drexler commençait à critiquer le n'importe quoi, on va dire, au nom de sa technique qui, pour lui, dans une vision encore très théorique, pouvait être non polluante. Et c'est pas malgré tout poser beaucoup de questions. Hein. C'était vraiment polluant, pas polluant. Mais sur la toxicité, Drexler, on va dire, est nul, archi nul. Pour ne pas parler des autres ingénieurs, physiciens ou chimistes aujourd'hui, qui souvent ne connaissent rien à la toxicologie, ont une culture de santé publique égale à zéro. Hein, et donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi en toute inconscience. Et donc, Eric Drexler a été remplacé comme porte-parole des nanos. On parlait de la manière dont il était sorti par les industriels, par Richard Smalley, qui est prix Nobel de chimie. C'est intéressant de suivre les prix Nobel, d'ailleurs, de voir à qui va le Nobel très souvent. C'est quand même des chercheurs qui travaillent pour les très grosses industries, notamment IBM. Enfin, bon. Et Richard Smalley a pris la place de Drexler en tant que grand lobbyiste, porte-parole du rêve des nanos. Et Richard Smalley était aussi un des principaux producteurs de nanos, directement intéressé, et un des organisateurs du budget, d'ailleurs, des nanos. On voit comment là-dedans, on a un conflit d'intérêts permanent hein, entre ceux qui dictent l'opinion publique dominante et ceux qui récoltent les bénéfices financiers.
Il me semble qu'il y a un autre élément important dans la sortie prématurée d'Eric Drexler que vous racontez, c'est le fait qu'il a, d'une certaine façon, commencé à alerter et à inquiéter l'opinion en parlant du fameux « grey goo », la glu grise, cette chose qui risquait de se répandre sur toute la planète. Parce que les nanoparticules, une fois créées, seraient incontrôlables. Et c'est bien exactement ça que vous venez de nous raconter avec les inquiétudes des toxicologues.
Alors, du point de vue toxicologique, elles sont incontrôlables. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Eric Drexler avait le souci, lui, de l'autoréplication. Et je pense qu'avec le recul, là, on peut lui donner raison. C'est-à-dire qu'il envisageait déjà que les industriels allaient produire des nanos autorépliquantes, capables de se reproduire elles-mêmes. Un peu à la manière des virus, à la différence quand même qu'un virus, à la limite, est moins dangereux, parce que quel que soit, même le virus Ebola, il a besoin d'un organisme hôte pour se développer. Et les nanos autorépliquantes, elles, n'ont besoin que de matière, même inerte. Donc il avait envisagé cette possibilité, et d'ailleurs, dans un chapitre entier qu'il consacre au danger des nanos, donc il envisage la possibilité de très vite de plus rien contrôler du tout s'il y a ce phénomène d'autoréplication et donc de glu grise, hein, qui, enfin, bref, la planète entière, tous les atomes se transforment en nanos et la vie disparaît tout simplement. Ça a été d'ailleurs une inquiétude qui a été reprise dans un certain nombre de rapports et ce qui est assez édifiant, c'est de voir que les auteurs de ces rapports reprennent la même expression en disant que c'est très improbable. Techniquement, en l'état actuel des pouvoirs de la technologie. Hein, on en est là. Très improbable, puis ils ne savent pas trop, etc. Et du coup, ils ouvrent la porte à chaque fois à l'investissement dans les nanos en disant que de toute façon, c'est le progrès. Alors, on a le mythe du progrès, encore une fois, scientifique, hein, qui revient là très, très fort. Et que de toute façon, le niveau d'engagement des grands acteurs économiques aujourd'hui est tel qu'on ne peut plus revenir en arrière.
Ce qui est clair, c'est qu'il fallait refermer très vite la porte sur une menace de cauchemar, parce que ça ne faisait pas rêver du tout, cette histoire-là. Et c'est peut-être le moment de faire entrer un autre corps de métier, que vous n'avez pas encore évoqué, mais qui a pourtant un rôle non négligeable. C'est cette armada de communicants, juristes, tous ces gens qui savent à la fois parler, manipuler la parole, et surtout manipuler les textes, ce qu'on appelle très souvent les lobbyistes, mais qui ont en fait des profils assez différents, assez particuliers. Et justement, il y en a un qui a été employé par le Foresight Institute en 2003, l'année où était votée la première loi qui allait en quelque sorte encadrer, si tant est que le mot ait encore un sens, les fameuses nanotechnologies aux États-Unis.
En fait, on a eu plusieurs lobbyistes qui ont travaillé pour l'Institut Foresight, au plus haut niveau, hein. en particulier un lobbyiste prêté par la NASA, qui est intervenu au Congrès pour adopter un programme national de nano, donc d'investissement public et privé, etc. Et on a des lobbyistes qui sont dedans en permanence, donc des conseillers de référence, et puis beaucoup de gens qui, sans s'afficher lobbyistes, sont quand même des grands décideurs de relations publiques, représentant Google et d'autres multinationales du même genre. L'Institut Forsyth, en fait, c'est une fourmilière, faut le dire, une fourmilière de lobbyistes qu'on retrouve, ainsi que Christine Peterson elle-même, hein, l'épouse de Drexler, qu'on retrouve dans des organismes internationaux, l'ICON en particulier, enfin tout un tas d'organismes sur tous les continents aujourd'hui qui se mettent au service, entre guillemets, des gouvernements pour les conseiller, pour définir des politiques de soutien aux nanos. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnalités qu'on retrouvait aussi auparavant comme conseil gouvernemental pour préparer des guerres et divers investissements économiques dans d'autres secteurs.
Moi, j'ai bien aimé que dans la littérature qu'ils envoient à leurs clients privés, ils proposent ouvertement d'établir des contacts au plus haut niveau avec les autorités politiques et même d'intervenir sur les législations et, quand ça n'est pas possible, d'obtenir des dérogations pour ceux qui le souhaiteraient si une réglementation est par trop contraignante. C'est-à-dire que c'est clairement affiché qu'on s'en fiche des lois.
Ce qu'on voit très lisiblement, c'est le mépris pour la santé publique. Ça, déjà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez un problème avec la toxicité de vos matériaux, on va vous vendre la dérogation. On va vous trouver les législateurs qui vont porter votre marché et qui vont vous permettre d'éviter des normes trop contraignantes. Il faut savoir que, on va dire, mondialement, et le repère a été fixé par les États-Unis, la part accordée à la recherche sur la toxicité pour les nanos, c'est environ 1% de ce qui est donné au développement des nanos par les États. Là, je parle vraiment des aides publiques. La France s'est calée sur ce chiffre. Alors officiellement, c'est 3%, mais quand on regarde de près, c'est, en fait, dans l'application, c'est moins de 1%. Et cet argent, d'ailleurs, ça circule, l'argent consacré à la recherche toxicologique est lui-même très mal contrôlé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop vers quelles équipes de recherche ça va, hein, par qui, avec qui elles sont en contrat, si elles sont en conflit d'intérêts ou pas. Et donc, à l'arrivée, c'est vrai, quand on regarde la littérature toxicologique sur le sujet, on s'aperçoit que les labos indépendants manquent. Bon. Et puis, surtout, on s'aperçoit parallèlement, une hypocrisie extraordinaire, c'est-à-dire que les ingénieurs impliqués, les firmes impliquées et les politiques nous répètent que la nanotoxicologie est encore balbutiante et que donc, en fonction des résultats qu'on aura à l'avenir, on interdira ou on normalisera les usages de façon à contrôler la situation. Il faut savoir que, encore une fois, d'ores et déjà, les États ne savent absolument pas où les industriels en ont mis. Et
les industriels eux-mêmes, dites-vous, ne savent pas nécessairement où ces nanoparticules ont atterri.
Alors d'une part, la plupart ne maîtrisent pas du tout le circuit ensuite entre la mise sur le marché, les nanomatériaux, l'utilisation par d'autres industriels des nanomatériaux, etc. Et très souvent aussi, se replient derrière l'argument qui consiste à dire, dans les matières premières qu'on reçoit, on ne sait pas, puisqu'il n'y avait pas de déclaration obligatoire, si les nanos étaient utilisés ou pas. Donc il y a une opacité extraordinaire, une non-traçabilité, mais vraiment voulue, organisée. J'ai retrouvé des rapports, par exemple, de colloques ou de concertations organisées entre les industriels et les sénateurs, dans lesquels ils s'entendaient les uns et les autres pour dire, par exemple, qu'il ne fallait pas répéter l'erreur, entre guillemets, des OGM, qui a conduit quasiment à un boycott, c'est-à-dire d'en parler avant que ce soit mis sur le marché. Et là, ils ont dit, on ne va surtout pas reproduire la même erreur. C'est-à-dire qu'on va mettre les gens devant le fait accompli, ils s'habitueront, hein, comme si le souci de santé publique était simplement un souci aberrant, hein, un fantasme populaire, comme si la toxicologie n'existait pas. Et ça, c'est totalement dément. Ça montre que vraiment, plus j'avance et plus je découvre qu'en fait, Henri Pézra avait raison, parce que je me souviens encore qu'il me répétait, le problème numéro un à la base, c'est l'absence de culture en santé publique des décideurs, qu'ils soient politiques ou industriels. Et donc, ils s'imaginent toujours que la question de la santé, c'est un fantasme, ou que c'est du catastrophisme, etc., comme si la toxicologie et l'épidémiologie n'existaient pas.
Et voilà, Roger Langlais, une fois de plus, le fait est accompli. C'est-à-dire qu'après l'amiante, après le plomb, après un certain nombre de pollutions extraordinairement dangereuses, les perturbateurs endocriniens, enfin, on ne va pas tous les citer, mais aujourd'hui, les nanos sont chez nous, ils sont partout, il y en a autour de nous, il y en a en nous. Il y a un secteur que vous n'avez pas évoqué tout à l'heure, c'est quand même curieux, c'est l'alimentation. Et pourtant, ils sont partout, dans le sel, le sucre.
Comme tous les secteurs sont concernés, en fait, j'en oublie ceux qui sont finalement les plus effarants, on va dire. Et le secteur de l'alimentation, effectivement, est très touché, puisqu'on a aujourd'hui des nanosilices, dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire, nanoaluminium.
Nanoargent.
Nanoargent, comme conservateur, qui intéresse d'abord les producteurs, pour le stockage très très longue durée, mais pas le consommateur de base. Enfin, pour amplifier les effets de couleur, certaines saveurs. Certaines textures, pour les rendre plus fluides, pour les rendre anti-agglomérants, etc. Donc on en a aujourd'hui dans toute la bouffe industrielle, pour dire les choses simplement.
Mais pas seulement, moi c'est ça qui m'a vraiment, je crois, le plus alertée, c'est qu'on ne peut pas complètement se protéger en évitant la nourriture industrielle, parce que le sel, le sucre, le dentifrice, je ne vois pas comment on fait.
Il y a des formulations bio, naturelles, pour le dentifrice, le sel, le sucre. C'est vrai que le sel de prendre simplement l'exemple du sel de Guérande agglomérant, justement, c'est qu'il n'y a pas eu d'anti-agglomérant. Donc déjà, on sait que l'aluminium sous forme nanométrique n'a pas été utilisé. Nanosilice, c'est pareil, c'est aussi un usage essentiellement pour éviter l'agglomération. Après, les effets de couleur très blancs, vous voyez, le sel très très blanc, ou le dentifrice très très blanc, etc., ou des bonbons aussi très très blancs, parce qu'on a aussi dans les bonbons ou les yaourts. Tout. Du côté de l'alimentation naturelle, on n'a pas ces recherches-là de séduction du consommateur à tout prix, et on n'a pas donc besoin, en fait, d'utiliser les nanos. Et par ailleurs, ce n'est pas les petits producteurs, si on va... Parce que les très gros producteurs, je ne citerai pas de nom, mais les très très gros producteurs de produits bio aujourd'hui, vu l'absence de réglementation sur le sujet, vraiment, ils sont capables de tout. Pour les petits producteurs, non. Simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter des nanos et ils ne développent pas, ils n'ont pas d'investissement dans le secteur. Alors pour l'alimentation, effectivement, on peut être très inquiet, mais aussi pour le textile. Par exemple, le nano-argent utilisé dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui les sous-vêtements auto-nettoyants. Donc immense progrès pour l'humanité. Parce que Drexler nous faisait rêver à des choses formidables. Donc voilà. Les chaussettes qui n'ont jamais d'odeur au nano-argent... Les études montrent bien qu'il y a un relargage intense, à la fois que ça passe l'épiderme d'ailleurs. Il faut bien songer que là, ils n'ont pas mis des chaussettes aux rats de laboratoire avant de le mettre sur le marché. C'est nous les rats de laboratoire, directement. Donc on sait que ça passe bien à travers l'épiderme et que ça s'en va dans l'organisme. Mais aussi, il y a un relargage lorsqu'on les lave. Donc l'eau résiduelle des machines à laver, les nanos, elles ne sont pas retenues dans les stations d'épuration. Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas aller rechercher après. Et donc elles finissent dans les aquifères, dans les nappes phréatiques, les rivières, etc. Et là, on sait que les dégâts du nano-argent sur la microfaune et sur le végétal aussi sont catastrophiques. Donc, ce qui fait que l'AFSET, d'ailleurs, en 2010, l'Agence de sécurité sanitaire environnementale, a préconisé l'abandon immédiat de l'utilisation du nano-argent dans les textiles.
Donc c'est fait.
Non, c'est pas fait. C'est pas fait. Je rappelle aussi qu'il y a un rapport qui n'a pas beaucoup circulé, qui est pourtant un rapport de l'OMS, sorti en 2013, qui demande l'application immédiate aussi du principe de précaution, et qui, c'est pas tous les jours que l'OMS le fait, donc ça vaut le coup quand même de signaler. Curieusement, ce rapport, on n'en parle pas. Il est d'ailleurs sur le site de l'OMS très très difficile à trouver, ça c'est aussi extraordinaire, alors qu'il est très instructif, et en particulier, c'est le seul rapport à ma connaissance qui attire l'attention sur les dangers des nanos pour les enfants.
Même pour les bébés, puisqu'il y a également des nanomatériaux dans les biberons, les tétines.
Alors on peut en trouver, effectivement, même dans les articles pour la dentition naissante, pour mordiller, etc. On en trouve dans les couches culottes, et puis dans des pansements. Alors, la fonction vendue, c'est antiseptique, donc encore plus antiseptique que les antiseptiques. On est toujours dans le plus blanc que blanc. Toujours parce que c'est des marchés qu'il faut séduire les consommateurs. Et puis, dans des gels cicatrisants, aujourd'hui, là, ça va arriver sur le marché, des gels cicatrisants. Donc le pansement qui lui-même contient un gel qui va générer plus de... Donc avec des nano-silice, titane, etc. Avec une induction aussi, d'ailleurs, des bactéries multirésistantes, qu'après, on n'arrive plus à tuer avec des antibiotiques. On a vraiment, là, une ruée insensée du fait de l'aubaine économique, encore, qui n'est absolument pas encadrée par le politique. Et on attend toujours la généralisation de l'obligation d'étiquetage. Pour les cosmétiques, elle n'est pas encore entière. Donc le consommateur lui-même ne peut pas boycotter, on voit bien que c'est ça l'enjeu. Pour les aliments, on attend toujours l'obligation qui normalement devait tomber il y a déjà 2 ans, c'est retardé, les industriels freinent encore, ils veulent qu'on exclue certaines nanos, qu'on ne les signale pas toutes, et d'ailleurs les plus utilisées. Donc on en est encore aujourd'hui là au stade le plus primaire de la prévention, donc pour ne pas dire de la non-prévention, puisqu'encore une fois, on est reparti dans le sens complètement contraire. Jamais j'aurais pu imaginer une telle situation.
Roger Langlais, on ne sait même plus dans quelle direction aller, parce qu'en effet, on a l'impression d'être complètement submergé de toutes parts par un phénomène qui a l'air assez incontrôlable, en plus d'être incontrôlé. Il y a un secteur auquel il faut particulièrement s'intéresser, je pense. Alors, on a bien vu à quel point il fallait charmer les consommateurs avec des charmes secrets, c'est-à-dire on ne leur dit pas comment on fait leur crème plus onctueuse ou leur yaourt plus savoureux. Pour l'instant, c'est des petits secrets de fabrication. Mais il y a aussi tout le secteur militaire qui pèse extraordinairement lourd dans toute cette histoire.
Le secteur militaire, c'est toujours celui qui est vendu par Christine Peterson, par exemple, qui a gardé donc, la direction de l'Institut Forsyth, qui est toujours très active, pour dire aux Américains, sans arrêt, d'ailleurs, il faut consacrer plus d'argent encore aux nanos dans l'armement. La prochaine guerre mondiale va se jouer autour des nanos, et les États-Unis vont être battus à plate couture par le Japon, et le fantasme toujours du Japon, d'ailleurs, qui revient, et la Chine ou l'Europe. En fait, quand on regarde de près, effectivement, malgré le secret militaire, on arrive à avoir des infos. Ne serait-ce parce qu'aujourd'hui, le nombre d'entreprises travaillant pour l'armée s'est considérablement développé. Et donc, on a aujourd'hui...
Oui, parce qu'en fait, l'armée a développé des partenariats avec les universités, avec des entreprises, tout ce qu'il y a de plus civil. Enfin, il y a aujourd'hui une très grande connivence, proximité entre toutes ces entités.
Oui, il y a même des appels d'offres à la recherche, enfin à la contribution, aussi à la mise au point de nouvelles armes, faites systématiquement par la défense américaine.
Peut-être justement faut-il préciser tout de suite quand même que ce n'est pas uniquement une histoire américaine. Que là, on parle de pays du monde entier. On parle de la France, on parle de l'Europe, parle de la Chine. C'est-à-dire que cette quête militaire, elle est partout.
Elle est mondiale. Là, on est vraiment dans une mondialisation des nanos et du risque lié aux nanos, avec une politique de non-encadrement complète. La France est presque figure de pilote, là, en ayant rendu la déclaration des nanos obligatoires au niveau des producteurs. Et d'ailleurs, on n'a pas le vrai contenu. C'est-à-dire qu'on a un rapport digéré pour l'opinion publique, on ne sait pas tout. Donc cet exemple va peut-être être imité encore en Europe, mais on arrive après la bataille là. Et pour l'armement, donc en France y compris, donc on a en fait une participation du secteur tout entier de petites et de moyennes entreprises ou de grosses entreprises, et on met au point des armes, évidemment, puisque les nanos sont là pour amplifier les effets physiques. On a des armes beaucoup plus destructrices, pour dire les choses simplement, qu'auparavant. Et notamment, j'attire l'attention sur l'hypocrisie autour de la régulation des armes chimiques. L'interdiction des armes chimiques est officielle aujourd'hui, même si les grands États en conservent. Il n'y a pas de convention sur les armes nanotechnologiques, qui sont en fait des armes chimiques, appelons un chat un chat. Bon. Et donc on a aujourd'hui des armes nanotechnologiques encore moins repérables que les armes chimiques. C'est-à-dire des brouillards, l'utilisation de brouillards, donc nanochimiques, appelons ça comme ça, beaucoup plus indétectables, voire complètement indétectables, puisqu'on peut les crypter, et elles ne sont repérables que par des systèmes de décryptage, notamment satellites, qui peuvent d'ailleurs renseigner du coup sur les dégâts sur le terrain. Et il y a sans observateur, sans prise de risque, donc des armements chimiques beaucoup plus puissants, capables d'agir beaucoup plus dans la durée, voire de façon sélective sur le terrain. Donc, où on éviterait le danger auparavant des armes chimiques, qui était que si les vents tournent, l'armée qui a envoyé le brouillard chimique peut se le prendre en retour. Là, on peut éviter tout ce type d'effet. Et on a aussi, par exemple, des cas très concrets qui semblent presque triviaux au regard des armes nanochimiques, qui sont par exemple des systèmes de drones minuscules, moustiques ou libellules, etc. Par exemple, la libellule française qu'on commence à acheter pour que chaque fantassin ait ses mini-drones, ça coûte à peu près 1 000 euros, c'est pas si cher que ça.
Donc on les fabrique en masse.
Donc on les fabrique. On sait, donc il y a toute une documentation. Encore une fois, le secret, il est plus difficile à garder là-dessus parce qu'il y a une concurrence et même une publicité que se font les entreprises en question. La nanolibellule donc, est en train d'équiper l'armée française. Donc, chaque aile est actionnée par à peu près 200, de mémoire, hein, 280 000 nanomuscles et est capable donc d'aller repérer des snipers, des commandos, la progression d'armée, etc. Et puis l'armée américaine qui, elle, a le nanofrelon, donc capable en plus d'inoculer éventuellement donc sur l'ennemi à travers la peau. Et puis là, maintenant, des nanomoustiques capables aussi, donc, aussi discrets que l'anophèle classique qui arrive sur votre peau, qui dépose insensiblement son détecteur, par exemple, ou la molécule chimique. Et voilà, ça, c'est pas de la fiction. Là, on est dedans. Les armées sont déjà en partie équipées par ce type d'armes. Pour ne pas parler des protections.
La panoplie.
Voilà, la panoplie du soldat, du fantassin, celui qui conduit un avion et qui peut se modifier. Donc, beaucoup plus souple, beaucoup plus résistante aux impacts, capable de diagnostiquer les lésions sur le corps, d'envoyer l'information à des centres. Et même, donc, aujourd'hui, on est vraiment dans la conception de ce qu'on voit dans les films de fiction depuis déjà une trentaine d'années, notamment les productions américaines, hein, c'est-à-dire de transhumains, on peut les appeler comme ça, c'est-à-dire de robots avec des bases biologiques connectés au cerveau du fantassin, qui lui donc peut être en retrait, hein, et qui sur le terrain vont accomplir, comme un fantassin, hein, les actions habituellement accomplies par le soldat. Éventuellement aussi des humains dotés de prothèses, comme des mains beaucoup plus puissantes, éventuellement même beaucoup plus habiles, capables de broyer, là où autrefois il y avait quand même des limites, et beaucoup plus indestructibles, etc. Donc on a là devant nous aujourd'hui un armement infiniment plus inquiétant que celui qu'on connaissait, qu'on redoutait déjà.
Parent proche, la sécurité intérieure ?
Alors, la sécurité intérieure, oui, parce que c'est évidemment... Et là, au passage, je remercierai pièces et main-d'œuvre qui ont été pour moi vraiment une source de documentation importante. On trouve leurs livres sur leur site. Je les trouve vraiment formidables. Donc, eux qui se sont énormément mobilisés justement sur cette dimension policière, en fait, des nanos, notamment à travers les puces. Donc, on est aujourd'hui capable de glisser sous la peau, dont on est capable de doter aussi tout un tas d'appareils. Donc l'espionnage, on va dire, domestique et citoyen, et politique, se trouve doté de moyens totalement inédits, indétectables. Et donc on est là devant, on voit bien en fait la nécessité d'une vraie reprise en main démocratique, citoyenne du problème. Parce que là, sinon, j'ai envie de dire totalement foutu, quoi. Le combat de générations de résistants, de militants. Là, on est devant ce qui, pour moi, est vraiment l'abîme. Et ce que j'aime chez Pièces et Main d'œuvre, c'est qu'ils ont été capables, avant les autres, en France en tout cas, de poser le problème dans sa dimension, on va dire, sociétale. Hein, pas toxicologique, là, mais sociétale, politique. Et le débat n'a pas eu lieu. Et donc, là aussi, pour la première fois, j'ai vu sur le terrain... Donc des gens, des citoyens capables d'aller dans les faux débats organisés par les industriels et l'État, où on avait essentiellement sur l'estrade des représentants des industries concernées, en fait, et puis éventuellement un militant comme ça, ou un observateur censé être indépendant. Et donc ces gens de pièces et main-d'œuvre ont été capables d'aller là, sur le terrain, d'empêcher que ces débats, entre guillemets, aient lieu, puisque le but de ces débats, c'était uniquement de créer du consensus autour des nanotechnologies et de mimer, en fait, la démocratie. Personnellement, je trouve ça, je sais que ça hérisse beaucoup de gens, mais je trouve ça formidable, là, ce qu'ils ont fait. Je vois la naissance d'un mouvement citoyen capable de dire non, hein, à ce genre de prestations publiques, là, de faux débats, inventés par Edouard Bernays, d'ailleurs, et ces gens-là, des pionniers du lobbying, hein, pour créer du consensus, comme il disait. Et là, ce consensus qui passe encore aujourd'hui beaucoup par les médias. Les médias continuent plutôt aujourd'hui à nous faire rêver sur les nanos, qu'à mettre en évidence les dangers. Même si, ici et là, on voit quand même émerger l'inquiétude.
Justement, Roger Langlais, pour terminer, on va parler des dangers. Ça ne va pas être gai, mais je pense que voilà, c'est important. Vous les avez évoqués. J'aimerais maintenant peut-être que vous entriez un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on sait pouvoir craindre de tous ces nanomatériaux qui, il faut le dire, ont été répandus par milliers de tonnes déjà dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, dans tout ce que nous touchons tous les jours.
Par millions et dizaines de millions de tonnes, hein, c'est devenu absolument énorme. Et déjà dès les années 2000, hein, en 2005, ça y est, on avait une production gigantesque en France. Et déjà tellement de nanos différentes que pour les énumérer, on peut dire qu'on en invente chaque semaine. C'est absolument incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'à partir simplement de l'argent, par exemple, vous pouvez avoir beaucoup de nanos différentes, de formes de nano-argent, parce que chaque fois, en bougeant un peu la charge électromagnétique, par exemple, vous avez des propriétés différentes. Donc on est aujourd'hui devant, on peut dire, quasiment une omniprésence des nanos. Donc je vous disais, alimentation, textile, produits ménagers, articles, mais des bibelots, enfin n'importe quoi, des appareils ménagers aussi.
Mais avec quel risque repéré ?
Alors, bon, j'ai fait dans mon livre des tableaux avec les principales nanos aujourd'hui, les principaux effets toxiques, la référence même des études, et puis les articles dans lesquels on les trouve. Reste que, il faut être un peu futé, parce que sans traçabilité, sans étiquetage, donc il faut déduire à partir de ces tableaux là où on peut en rencontrer. Et dans la colonne, justement, des dangers, on a de façon générale. Alors déjà, on va dire presque pour toutes les nanos, c'est ce qui me frappe, mais ça c'est dû à leur effet de taille, leur taille minuscule, c'est une cytotoxicité, c'est-à-dire qu'ils sont toxiques pour les cellules. Ils créent un phénomène d'apoptose, un suicide cellulaire à force de stress, justement, dans les cellules. Beaucoup sont capables de rentrer dans le noyau, là où se loge l'ADN, et donc de devenir mutagènes. Leur capacité à traverser les barrières organiques, donc digestives, notamment hémato-encéphaliques, donc le cerveau, fait qu'on les retrouve, ils se disséminent dans tout l'organisme. L'inflammation cellulaire aussi qu'ils entraînent, c'est le processus tout simplement déclencheur sur la durée du cancer. Donc beaucoup sont cancérigènes. C'est presque difficile, ça devient presque impossible de dire lesquels ne le sont pas, tellement c'est général. On a donc la neurotoxicité qu'on retrouve, dont on avait parlé avec Marie Grossman pour l'IFRESCENCE, c'est la capacité à entrer dans le cerveau, donc, en s'associant souvent, et d'aller jouer avec les neurones, bon, et d'entraîner donc des phénomènes de destruction tout à fait bien repérés aujourd'hui. Donc on a une polypathologie induite souvent, tout simplement parce qu'elles sont capables d'aller se loger dans n'importe quelle cellule, quel que soit l'organe, hein, donc le foie, la rate, les reins, le cerveau, je l'ai dit. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'à chaque fois qu'on commence à avoir des études sur les nanos, on découvre à peu près les mêmes propriétés qui sont encore une fois dues à la petite taille, à l'effet de surface que ça induit, parce qu'il faut savoir que plus c'est petit, comme je disais tout à l'heure, plus la surface en fait, de réaction est grande. Je vais prendre un exemple tout simple, parce que c'est un peu paradoxal, a priori. Si je prends un livre, mettons, de 30 cm carrés de surface, vous voyez, ça, c'est un bloc. Bon, alors, il a 30 cm carrés d'échanges possibles avec un organisme. Si je le divise en 300 morceaux, en 300 pages, alors, vous voyez, chaque page se rajoute. Autrement dit, on multiplie par 300 la surface de contact avec l'organisme. Et du même coup, donc la réactivité chimique, biochimique, hein, avec la cellule ou avec l'organisme, est considérablement amplifiée. Et ça, c'est déjà la base de la toxicité spécifique des nanos, donc beaucoup plus grande.
Est-ce qu'on sait si les nanos ne font que passer ou restent et s'accumulent ?
Alors, autre spécificité des nanos qui pose un problème toxicologique, c'est la durée. Justement, elles sont faites en général pour résister beaucoup plus longtemps. Et vous vous souvenez, c'était en fait l'effet numéro 1, de l'amiante, les fibres d'amiante indestructibles qui arrivent, parce qu'elles ne sont pas solubles dans les graisses et dans l'eau, à rester très longtemps. Et donc le processus inflammatoire va durer tout le temps que la particule va rester là. Donc, c'est exactement le même effet que les fibres d'amiante. Et par exemple, pour prendre le nanocarbone aujourd'hui, les nanotubes de carbone très utilisés, c'est l'un des plus utilisés, eh bien le nanocarbone, on découvre qu'il est capable d'induire des mésothéliomes, c'est-à-dire ce fameux cancer de la plèvre du poumon,
qui était celui qui signait en fait la présence d'amiante.
Voilà, et désormais, eh bien, un mésothéliome peut être dû à des nanos, hein, notamment aux nanotubes de carbone, qui par leur taille, la forme aussi est importante, quand ça a une forme de fibre ou de tube, ça peut traverser l'organisme encore plus facilement, et la durée, effectivement, prolonge le processus inflammatoire au point de faire naître un cancer.
Roger Langlais, en conclusion, face à ce raz-de-marée que vous nous avez décrit sous toutes ses formes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plus rien ?
On peut faire des choses. Je rappelle toujours qu'avec l'amiante, par exemple, on était à l'interdiction globale. Bien que les industriels voulaient rendre le truc filandreux en disant on ne va pas interdire toutes les fibres, on va juger au cas par cas.
Exactement non. Ce qu'ils font d'ailleurs pour les nanos.
C'est exactement ce qu'ils font pour les nanos. Or, quand il y en a partout, qu'on ne sait plus où il y en a, du fait que cette non-traçabilité, elle est irréparable. C'est entré dans tout un tas d'endroits, de matériaux de construction et tout. Et bien, comme pour l'amiante, il n'y aura pas d'autre solution que l'interdiction globale, revenir à la case zéro, tout reprendre dans l'ordre où ça aurait dû être pris, c'est-à-dire études toxicologiques d'abord, et puis en fonction de ça, on met ou pas sur le marché, et avec un vrai recul. L'amiante, je le rappelle toujours, c'est pas parce que c'était un cancérogène qu'on l'a interdit, c'est parce que c'était devenu ingérable en termes de plan de gestion des risques, quand il y en a partout, qu'on ne sait même plus où il y en a, et même si on savait là où il y en a, on ne peut pas vivre au quotidien comme des paranoïaques permanents. Et donc, vu les pathologies induites, vu les risques induits, il n'y a pas de plan de gestion des risques possible au cas par cas. On va tout droit vers des interdictions globales et il faut que les citoyens se mobilisent pour obtenir, comme pour l'amiante, hein, ça n'a pas été une initiative des industriels ou des politiques, c'est l'initiative citoyenne.
Le livre de Roger Langlais, Les nanotoxiques, est publié aux éditions Actes Sud. Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture. 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Philippe Bredin, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.